Vous écoutez On lit pour vous.
Le prochain bond en avant. Un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 22 février 2024 dans la presse. Le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où les gens vivent le plus longtemps. Ce n'est pas rien, vivre plus longtemps. C'est voir ses enfants s'épanouir et ses petits-enfants grandir. C'est avoir des mois et des années de plus pour marcher dans la forêt, pour souper entre amis, pour lire, pour embrasser la personne qu'on aime. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des vies, j'en prendrais 5 ou 6 de plus. Nous n'en avons malheureusement qu'une, mais celle des Québécois est plus longue que celle de la plupart des humains sur Terre. Répétons-le donc. L'espérance de vie des Québécois est d'un an de plus que celle des autres Canadiens et de 6 ans de plus que celle des Américains. Quel est notre secret? Serait-ce possible que notre système de santé ne soit pas si mauvais? Aïe, je sens déjà le déferlement de courriels haineux. Mais attendez! Parlons d'abord des déterminants de la santé, cela nuancera l'importance de la contribution du réseau de la santé à notre bien-être et ensuite, nous traiterons brièvement des sources de nos difficultés actuelles. Plusieurs facteurs influencent la santé des populations, mais ils n'ont pas tous le même poids. L'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, estime ainsi le poids relatif des éléments qui influencent notre santé. Environnement social et économique, 50%. Système de soins, 25%. Biologie et génétique, 15%. Et environnement physique, 10%. La clé de notre santé se trouve donc dans notre environnement économique et social, ou autrement dit, dans notre niveau d'instruction, dans notre niveau de richesse et dans notre capacité d'entraide. À cet égard, l'État-providence québécois a produit des résultats exceptionnels. En 40 ans, nous sommes passés d'une des nations les moins instruites et les plus pauvres en Amérique du Nord à l'une des plus instruites et des plus riches de tous les pays industrialisés. Il y a chez nous, par exemple, moins d'inégalités socio-économiques, moins de grande pauvreté, moins d'inégalités hommes-femmes, moins de violence que chez tous nos voisins. Conséquence de tout cela, entre 1991 et 2021, donc en 30 ans seulement, les hommes québécois ont gagné 7 années d'espérance de vie, de 73,6 à 81,29, et les femmes, 4,5, de 80,6 à 84,99. Oui, notre rattrapage a été extraordinaire et on ne le célèbre pas assez. Le réseau de la santé s'est modernisé lui aussi. Il est en partie responsable de ce succès, mais il en est également la victime. En effet, le réseau de la santé doit maintenant traiter plus de gens, car la population augmente. Il doit aussi traiter proportionnellement plus d'aînés, car la nation québécoise est, avec le Japon, une de celles qui vieillissent le plus vite au monde, loin devant les pays européens. Et il doit évidemment traiter tout ce beau monde plus longtemps, parce que notre espérance de vie croît. C'est la tempête parfaite. Un autre phénomène s'ajoute. Les technologies médicales et les médicaments ont évolué à la vitesse grand V. Notre arsenal pharmacologique et technologique nous coûte beaucoup plus cher qu'avant et l'État arrive difficilement à suivre l'explosion des coûts. Il y arrive d'autant moins que les patients sont plus informés qu'avant et qu'ils exigent eux-mêmes des interventions de pointe. Pour faire face à ces tendances lourdes, les réformes du réseau de la santé se sont succédées, elles aussi, à la vitesse grand V. Contrairement à ce que l'air ambiant nous laisse entendre, ces réformes nous ont fait faire des pas en avant, les gens restent moins longtemps à l'hôpital, le réseau traite plus de gens et, oui, les gens vivent plus longtemps grâce à diverses innovations. Il y a toutefois deux domaines qui expliquent une grande part de nos graves difficultés actuelles. Premier domaine, l'affaiblissement constant de la première ligne. Les citoyens doivent être accueillis, écoutés, suivis par des gens qui les connaissent, par des équipes multidisciplinaires, par des institutions locales capables d'adapter les actions du réseau à la réalité locale, par exemple en maintien à domicile des aînés, une de nos urgences nationales. Les réformes Couillard et Barrette ont fait exactement le contraire. La machine a pris le dessus sur l'humain. Le ministre Dubé, lui, prétend donner un plus grand pouvoir d'agir aux gestionnaires sur le terrain tout en les reliant directement aux dirigeants tout-puissants de Santé Québec. La décentralisation prend, dans cette réforme, des airs d'énantiosémie. Le fait, pour un mot, de signifier une chose et son contraire. J'espère, malgré tout, que l'avenir donnera raison au ministre Dubé. Deuxième domaine. En 50 ans, tous les gouvernements ont plié devant les médecins. Le corporatisme médical l'a toujours emporté. Salaire indécent, multiplication des primes, vision du réseau centré sur l'hôpital, donc les médecins, plutôt que sur la première ligne, négligence de la prévention. Combats acharnés pour préserver chaque parcelle du pouvoir des médecins. Le corporatisme médical est un boulet au pied de l'État. L'affrontement actuel du ministre Dubé avec la FMOQ en est un bel exemple. Il faut que le ministre l'emporte. En matière économique et sociale, le Québec a fait un spectaculaire rattrapage qui nous permet aujourd'hui de profiter de la vie plus longtemps. Toutefois, le corporatisme médical et notre manque de volonté de donner du pouvoir et des ressources aux instances locales compromettent notre capacité de faire de nouveau un grand bond en avant. Et d'en être fier. C'était le prochain bond en avant, un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 22 février 2024 dans La Presse.
Le meilleur et le pire de mes 250 entrevues dans le Fugue. Un texte de Samuel Larochelle, paru le 1er avril 2024 dans le magazine Fugue. Plus d'une décennie à interviewer des personnes queer de tous les horizons, ça en fait des souvenirs à déterrer. À l'occasion du 40e anniversaire du Fugue, je vous invite dans les coulisses de mon travail de journaliste afin de découvrir le meilleur et le pire des 10 dernières années. Ma plus grande fierté en tant que journaliste, c'est quand les personnes que j'interviewe affirment que je pose des questions que les autres médias ne posent pas, qu'elles sentent que je ne les juge pas et que je les accueille dans toute leur complexité. Non seulement ça permet aux journalistes indépendants que je suis de se démarquer dans un domaine ultra-compétitif où les piges sont peu nombreuses, mais par-dessus tout, ça me rassure sur ma capacité à vous offrir du contenu différent, parfois exclusif, souvent plus nuancé. Comme je suis un homosexuel avec des amies lesbiennes, bi, trans et non-binaires, dont j'aime comprendre les enjeux, j'ose croire que cela m'aide à éviter les clichés que plusieurs journalistes continuent de véhiculer, et que cette compréhension de l'intérieur des communautés queer me permet d'approfondir la discussion. Travailler autrement. Ce désir d'originalité, de respect et de profondeur s'est développé avec le temps. J'ai commencé à pratiquer le journalisme à temps plein en août 2012. 15 mois plus tard, je cognais à la porte du Fugue puisque j'avais un grand intérêt pour les sujets LGBTQ+. Mes entrevues ne sont pas militantes puisque je laisse toute la place aux interviewés pour exprimer leur vision du monde. Cependant, le fait de mettre en lumière les queers, de leur donner une tribune et de les faire rayonner, est une de mes missions journalistiques. Si plusieurs collègues se consacrent au journalisme d'enquête, au journalisme scientifique ou au journalisme politique, je tiens pour ma part à faire entendre les voix LGBTQ+, le plus possible. Des débuts qui donnent chaud. Tout a commencé en septembre 2013 dans la sueur et l'émerveillement. Mon premier sujet, David Testo, l'ancien joueur de l'Impact de Montréal dont le coming out avait fait les manchettes du monde entier environ 3 ans plus tôt. Comme il avait changé de carrière en devenant professeur de yoga, j'avais eu l'idée de suivre une classe pour le voir en action, même si le yoga chaud est pour moi une pratique aussi agréable que l'idée de me faire écraser le pénis par une enclume. Après avoir survécu à 75 minutes de déshydratation en mouvement, j'ai discuté avec l'ex-athlète en gardant toute ma concentration, même si, je dois l'admettre, sa beauté me faisait claquer les rotules. S'ouvrir sur le monde. J'ai eu le sentiment d'ouvrir mon esprit et ceux des adeptes du fugue grâce à la série mensuelle sur l'état de la queerness dans les pays étrangers. Pendant plus de 2 ans, dans chaque numéro, j'interviewais un homosexuel, une lesbienne, un ou une bisexuelle ou une personne queer pour faire un survol des droits LGBTQ+ dans leur pays, pour aborder le rapport du reste de la population aux personnes queer et la possibilité de vivre sa différence ouvertement. Du Japon au Liban, en passant par la Nouvelle-Zélande, le Cameroun, l'Islande, le Pérou, l'Afrique du Sud, le Vietnam et tant d'autres nations, je sentais que je faisais œuvre utile. Les efforts pour y arriver étaient parfois immenses. Malgré mes contacts dans certains pays, le défi de trouver des queers dans plus de 25 nations était énorme et j'avais souvent pour seul moyen de communication un courriel auquel IL décidait parfois de ne plus répondre. Le stress que je ressentais en voyant approcher une date de tombée était parfois énorme, mais ça valait toute l'angoisse du monde. Accès aux icônes. Être journaliste pour le Fugue me donne également la chance de rencontrer des icônes. Imaginez le privilège de discuter pendant 30 à 45 minutes avec Clémence Desrochers, Ariane Moffat, Michel Richard, qui allait donner un spectacle à la fête arc-en-ciel cette année-là, Catherine Levac, Jean-Michel Blais et Alexandra Strelitzky, dont j'admire le travail depuis des années. Journaliste ou fan de Drag Race? Parfois, mon travail devient le prolongement de mes loisirs. En tant qu'amoureux fini de Drag Race, j'ai regardé les franchises de presque tous les pays, je ne manque pas une nouvelle saison et je ne fais pas encore partie de celles qui se lassent de l'émission. Ai-je besoin de vous dire que je me suis sentie choyée durant mon tête-à-tête avec Nikki Doll en découvrant que l'animatrice de Drag Race France était généreuse, humble et brillante? Que j'ai adoré découvrir le parcours et la créativité de la première gagnante belge, Drag Queen? Que je n'arrivais pas à croire que je rigolais avec Isis Couture, la deuxième reine de Canada's Drag Race? Et que dire de mes entrevues avec Gisèle Lullaby, débordante de spontanéité, de répartie, de gentillesse et de franchise? À ce jour, elle figure dans la liste de mes 5 entrevues préférées en carrière. Chouchou. Parmi mes autres coups de cœur, je dois nommer la récente discussion avec Sacha Baga, qui s'est confiée à moi avec un abandon émouvant. Le jour où j'ai interviewé l'ex-politicien Sylvain Gaudreau, 13 ans après qu'il m'ait enseigné le journalisme. Mon entrevue avec un homosexuel républicain qui m'expliquait pourquoi il adhérait à ce parti 1 an avant l'élection de Donald Trump. Les dizaines d'entrevues avec les écrivains et écrivaines queer que je mets en lumière. Mes jasettes avec les participants-participantes queer de Star Academy, Si on s'aimait, La Voix et L'amour est dans le pré, dont les articles sont toujours très populaires. Sans oublier mes nombreuses entrevues avec le patineur Eric Radford, premier athlète ouvertement gay de l'histoire à remporter une médaille d'or olympique aux Jeux d'hiver. Non seulement le passionné d'olympisme que je suis a toujours aimé avoir accès aux athlètes de haut niveau, mais il se passait toujours quelque chose entre nous. L'impression de parler le même langage, de se comprendre mutuellement et de voir naître une complicité indéniable. Après sa retraite de la compétition, nous sommes tout simplement devenus amis. Souvenirs amers. Parmi les centaines de personnes à qui j'ai parlé dans le cadre de mon travail pour Fugue, seuls trois revivent des souvenirs négatifs. D'abord, mon entrevue virtuelle avec le fondateur de Grindr, Joel Simkai. En plus de son incapacité à assumer que la célèbre application soit devenue un terreau fertile pour le racisme, la grossophobie, le sexisme, la transphobie et la queerphobie intériorisée, il était accompagné lors de la discussion par des collègues qui intervenaient dès qu'une question difficile était posée. Soupir. Je me rappelle aussi le lutteur américain queer Sonny Kiss. Je voulais savoir si ses collègues lutteurs, qui correspondent à tous les clichés de la masculinité toxique en apparence, l'avaient accueilli avec ouverture aux préjugés. Mais il me répondait comme si mes questions étaient connes et me jugeait sans aucune gêne. Finalement, parlons de Brooklyn Heights, que j'avais suivi avec tellement d'intérêt lors de sa participation à RuPaul's Drag Race aux États-Unis. Peu avant sa venue à Fierté Montréal, on m'avait demandé de l'interviewer. Son relationniste prétendait qu'elle n'avait pas 15 minutes pour discuter au téléphone. Il m'avait obligé à faire l'entrevue par courriel et la célèbre drag queen, ou une employée, m'avait renvoyé des réponses banales de quelques mots seulement. J'avais dû broder autour de ces maigres citations, sans jamais rien inventer, pour livrer un article tant soit peu potable. Ironie de la chose, mon patron m'a dit que ce texte avait été l'un des plus lus de l'année. Vous comprendrez que mon travail de journaliste pour le magazine Fugue m'en a fait voir de toutes les couleurs, mais que 99% d'entre elles sont scintillantes. D'ailleurs, je constate avec joie que mon boulot me fait toujours autant vibrer après plus d'une décennie. Je crois bien que vous pourrez me lire dans ces pages encore longtemps. C'était « Le meilleur et le pire de mes 250 entrevues dans le Fugue », un texte de Samuel Larochelle, paru le 1er avril 2024 dans le magazine Fugue.
Pour ne pas geler, sur place publique. Un texte de Karine Bénézet de l'Itinéraire, paru le 24 février 2024 dans la presse. 5 heures après l'ouverture de la halte chaleur de l'Itinéraire, le 15 janvier 2024. Il est 1h30. Nous avons 3 personnes dans la halte chaleur, relate Vincent Ozrou, chargé de coordonner la gang d'intervenants du projet. Les employés sont enthousiastes et fiers d'offrir ce service, poursuit-il dans son courriel nocturne. 12 de ses pairs et lui-même se relaient depuis la mi-janvier, 7 nuits sur 7, dans ce coin habituellement déserté de Ville-Marie, au 1320 rue Notre-Dame-Est, pour offrir des services de base à ceux qui habitent la rue. Ici, pas de fla-fla. L'allure extérieure de la halte chaleur établie dans l'ancienne brasserie Molson était au jour 1 un tantinet lugubre, décrivait le directeur général de l'Itinéraire, Luc Desjardins, le surlendemain de l'ouverture. Lundi, il n'y avait toujours pas de lumière à l'entrée. Le déneigement ne se rendait pas jusque-là. La ville n'avait pas de détails pour la gestion des vidanges. J'ai dû acheter à la dernière minute 3 spots de garage jaune pour éclairer l'entrée et des petites guirlandes d'ampoules de bistrot qui donnent une belle atmosphère tamisée pour l'intérieur. Sans les oriflammes de l'Itinéraire de chaque côté de la porte d'entrée du bâtiment, pas moyen de savoir qu'une halte chaleur se trouvait dans ce no man's land à 15 minutes à pied des stations Champ de Mars et Baudry. Et pourtant, de 19h à 7h, jusqu'à 25 personnes à la fois peuvent y rester, boire et manger chaud, compléter leur équipement hivernal, relaxer, voire piquer un somme, l'esprit tranquille. Surtout, ils ont le droit de ne pas geler sur la place publique. Une des 3 personnes présentes a été emmenée ici par des constables, poursuivait Vincent dans son courriel. Elle se gelait dans une entrée de commerce. Si elle ne nous a pas remerciés 20 fois, c'est parce que je n'ai pas compté. Un tour de force, rappelons-le, que l'ouverture de cette halte chaleur, réalisée en à peine 3 semaines, recrutement de l'équipe et formation compris. Le projet est épaulé financièrement par le CU3S du centre-sud de l'île de Montréal. Les lieux sont ouverts jusqu'à la fin du mois de mars, et peut-être même plus, si l'hiver s'étire. C'était, pour ne pas geler sur la place publique, un texte de Karine Bénézet de l'Itinéraire, paru le 24 février 2024 dans La Presse.
Lâchez pas, un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 28 janvier 2024 dans La Presse. Il y a un mois, vous vous lanciez un défi. Peut-être avez-vous nommé un objectif clair. Ou alors, vous êtes comme moi, davantage du type souhait vague que résolution franche. Extrait de mon dialogue intérieur. Bouger mon corps tout en préservant ce qui ressemble à un équilibre travail-famille-ami, ce serait bien. J'aimerais vivre vieille et relativement en santé, mais bon, qu'est-ce que je contrôle là-dedans? Vaut mieux essayer quand même. Ah, puis je vais avoir des gros muscles pour faire peur aux gens. Bref, il y a 28 jours, vous entamiez une quête plus ou moins claire. Si vous êtes toujours en selle, bravo. Ce n'est pas rien, considérant que 3 mois après la prise d'une résolution de nouvelle année, 50% des gens l'auront abandonnée. Après un an, seuls 12% d'entre nous la tiendront encore. C'est Robert J. Valerand qui m'a appris ces statistiques. J'ai appelé le professeur titulaire de psychologie à l'UQAM pour savoir comment transformer une résolution en passion. Le titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les processus motivationnels et le fonctionnement optimal m'a répondu que du côté de la motivation, ce qui importe, c'est la personne, l'environnement et l'activité. Allons-y dans l'ordre. Qui suis-je? C'est la question d'une vie, mais plus on sait y répondre, mieux on peut choisir ses objectifs. Si on opte pour une activité qui correspond à l'idée qu'on se fait de soi, on a davantage de chances de l'adopter, constate le chercheur. J'ai toujours cru avoir une fibre artistique et être nul en mathématiques. Pourquoi ne pas commencer à apprendre à jouer de la guitare plutôt qu'à maîtriser Excel? Plus encore, mieux on se connaît, mieux on comprend pourquoi on souhaite relever un nouveau défi. Et la question est cruciale. Autant que possible, on le fait par choix plutôt que pour plaire aux autres, explique Robert J. Valerand. Il faut éviter de se remettre en question, de se réveiller et se demander « est-ce que j'y vais ou pas ?» Quand la motivation est auto-déterminée, les gens développent plus rapidement une routine et une automatisation de l'activité. J'ai de la misère à me lever le matin. La veille, je prépare mon sac pour qu'ils m'attendent devant la porte. Je mets des conditions en place pour éviter les entraves. Par contre, si je n'ai pas fait le choix de cette nouvelle activité et que j'y vais de reculons, c'est quasiment un contrat pour l'échec. L'environnement maintenant. Les encouragements de nos proches nous motiveront, mais leurs doutes, même discrets, nous affecteront. Robert J. Valerand offre un exemple concret. Si je me lance en dessin et que je m'inscris à des cours les mardis à 19h, mais que ma conjointe trouve que ce n'est pas la période idéale, il y a une entrave et je pars à moins 10. En même temps, c'est vrai que ce n'est pas l'heure idéale pour la gestion familiale. Et l'activité, elle, il faut qu'elle nous intéresse. Ou du moins que certaines parties de la dite activité nous intéressent. Ça semble évident, mais il est là le bémol des souhaits de début d'année. Un grand pourcentage des résolutions que prennent les gens, ce sont des choses qu'ils veulent améliorer, mais pas nécessairement des choses qui seront intéressantes, explique Robert J. Valerand en citant 2 classiques, « Arrêter de fumer » et boire moins d'alcool. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est un désir chez l'être humain de s'améliorer. La littérature scientifique est claire là-dessus. Même si les gens échouent, ils recommencent l'année suivante, rappelle Robert J. Valran. Vient ensuite la question de la durée. En 6 mois, on devrait savoir si une nouvelle activité a le potentiel de nous enflammer, selon Robert J. Valran, qui s'appuie sur une recherche menée sur le développement de la passion au temps zéro. On a pris des adolescents qui n'avaient jamais touché à un instrument et qui en étaient à leur premier trimestre avec cours de musique obligatoire. Quand on les suit sur 6 mois, seulement 30% vont développer une passion. Ils peuvent continuer à s'impliquer, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire avec passion. Et si on valorise socialement les gens motivés, il faut demeurer prudent quant au type de passion qu'on génère. Notre nouvelle source de plaisir est-elle harmonieuse ou obsessive? La première s'intègre bien dans notre quotidien. La seconde peut nous faire perdre le contrôle. L'obsessive se développe surtout quand on veut compenser pour un manque d'activité plaisante dans le reste de notre vie, souligne le chercheur. À court terme, ça peut être adaptatif. Je viens de rompre, je vais m'investir à fond dans une activité. Je me sens mieux, je surinvestis, ça devient addictif et ça peut mener à des conséquences mésadaptatives. S'isoler pour conserver une nouvelle habitude n'est pas nécessairement signe de succès. Le dernier truc pour tenir bon? Finir au sommet. Quand Robert J. Valran travaillait auprès de jeunes, on lui avait recommandé de terminer toute activité tandis que les enfants étaient au paroxysme du plaisir. Ça leur donnerait envie de jouer à nouveau. Ils l'ignoraient à l'époque, mais ce conseil était ancré dans la science. L'amygdale est très importante. C'est là que se trouve la mémoire affective. On sait, avec la recherche, que lorsque les gens pensent à l'activité, ils pensent à leur high et non pas au début quand c'était plus difficile. En somme, il vaut peut-être mieux déposer la guitare quand on a enchaîné 2 accords plutôt qu'en apprendre un 3e. Voilà qui précise ma résolution pour 2024. Devenir complice avec mon amygdale cérébrale et les gros poids qui rendent assez musclés pour faire peur. C'était « Lâchez pas », un texte de Rose-Aimée Autonté-Morin, paru le 28 janvier 2024 dans la presse.